fait le rite de commémoration. Le rite de commémoration est un substitut de l'événement. Mais s'il est fait comme il doit être fait, il nous fait participer à l'événement. Ça vous expliquera la phrase d'Agada qui dit « Tout le monde, le soir de Pessah, doit se considérer comme étant lui-même sorti d'Égypte. » Ça veut dire, le soir de Pessah, nous vivons une expérience religieuse qui nous fait sortir à notre échelle de l'Égypte. Et j'essaye d'indiquer cela. Il faut combler cette secondarisation que nous avons avec la réalité. La réalité, c'est de sortir d'Égypte. Nous sommes secondarisés à un niveau, disons, abstrait, secondarisé, où nous jouons à ça. Un jeu dans le sens noble, le rite. Mais le rite doit prendre la signification de l'événement. Sinon, c'est un jeu. Est-ce que c'est clair? Vous avez bien compris? Top. Alors, on va faire 5-10 minutes de pause. En attendant, vous aérez. Et sous les yeux, le texte qu'on a eu tout à l'heure. Amar Abelazar ben Azaria. Nahol. Mais ceci est une Mishnah qui est à la fin du premier chapitre de Brachot. Et la Mishnah commence un peu avant. Alors, je vais vous lire la première phrase de la Mishnah qui n'est pas dans la Haggadah. La première phrase de la Mishnah dit ceci. Maskirin. Yetziat Misraïm Balelot. On mentionne la sortie d'Égypte les nuits. Voilà quelle est la halakha que cette Mishnah veut étudier. On a décidé qu'on mentionne la sortie d'Égypte les nuits. Quelqu'un peut écrire au tableau Maskirim, le mot de Maskirim. Qu'est-ce qui s'est écrit en hébreu? Mais non, je sais pas. Il n'y a pas de cri.
Maskirin.
Le mot de maskirin.
Hein?
In. Comme c'est écrit dans le mot. Maskirin. Voilà. La racine, c'est la racine de Zecher, Zachor, qui signifie mentionner. Ensuite, on mettra un deuxième mot au tableau pour voir la différence. Alors, quel est le problème? Encore une fois, le problème concerne le Kriyat Shema du soir. Vous savez que dans le Kriyat Shema, il y a trois parashiyot. Les deux premières parashiyot, il n'y a pas de discussion, qu'on les dit le matin et le soir. La troisième parasha, qui se termine par la mention de la sortie d'Égypte, Anochi Hashem Ani Hashem Elokecha Asher Zitzicha Melech Mitzrayim, tu peux introduire la dernière bracha du Kriyat Shema, Emet Ve'yatziv le matin, Emet Ve'emunah le soir. Il y a un problème de savoir si on doit la dire la nuit. Pourquoi? Parce que dans cette bracha, il y a le fait qu'on doit voir les titit. Uritem oto usrartem, les titit. Or, il n'y a pas de mitzvah de porter les titit la nuit. Et d'autre part, il n'y a pas de chova de porter les titit la nuit. Pourquoi? Parce que le verset dit qu'il faut les voir, et on voit le jour. Par conséquent, cette paracha, cette troisième paracha de Kriyat Shema, où il y a la mention de la sortie d'Égypte, est en question à cause des tzitzit la nuit. C'est clair, j'ai schématisé, mais c'est clair. Okay. Pourtant, les Chachamim vont décider, malgré tout, on mentionne la sortie d'Égypte les nuits. Et tout se passe comme si on ne sait pas comment fonder cette décision. Quel est le sens de ce problème? On le verra après. Pourquoi à un certain moment, les Haramim ont décidé qu'on va rendre force de loi le fait de mentionner la sortie d'Égypte aussi dans les prières de la nuit, tous les jours, hein, toutes les journées. Je vous donne une petite liaison avec notre sujet. De la manière suivante. Tant qu'on était au temps du premier temple, il y a eu la sortie d'Égypte et on est dans la Géoula. Au temps du premier temple, avant la deuxième galoute. Alors ça avait un sens de rappeler la sortie d'Égypte, c'est-à-dire la Géoula qui nous a fait passer de la nuit au jour. Vous suivez? Mais maintenant qu'on est revenu dans la galoute, on est revenu dans la nuit, est-ce que ça a un sens pendant la nuit de dire on est dans le jour? Vous voyez pourquoi? On va se poser une question de fond dans la Gemara, et je vais encore l'élargir, vous me direz si c'est suffisamment clair, à partir du moment où on a été rejeté d'Eretz Israël, est-ce qu'on avait encore à pratiquer la Torah? C'est allé jusque-là, la question. Et vous voyez comment ça s'applique à notre sujet. Maintenant qu'on est retourné en exil, est-ce qu'on a commémoré Pessah? Veillette, par rapport au Kriyat Shema, quand on sort de la nuit dans le jour, c'est clair de dire on est dans le jour, mais quand on sort du jour pour entrer dans la nuit, c'est pas clair de dire on est dans le jour. Vous avez compris pourquoi il y avait un problème? Donc, bon, j'ai bien conscience que c'est pas simple. Et comme question, vous découvrez la dialectique talmudique et une expérience de signification spirituelle des notions intellectuelles qu'il faut récupérer et qui s'est perdue dans la culture occidentale. Okay? Est-ce que ça a un sens? Est-ce que c'est pas une contradiction, alors qu'on est dans la nuit, de parler du jour? Spirituellement, c'est contradictoire. Intellectuellement, on peut dire, même dans la nuit, on se rappelle que c'était le jour où on l'a connu. Mais spirituellement, c'est pas vrai. Et ce qui n'est pas vrai ne fait pas partie de la liturgie vraie. Donc les Rameux ont un problème. Ils tenaient à ce qu'on parle de la sortie d'Égypte la nuit. Mais ils ne savaient pas comment le démontrer. Donc on a deux choses à comprendre. La première, c'est pourquoi ils tenaient à ce qu'on parle de la sortie d'Égypte la nuit. Et la deuxième chose, on va l'étudier, le problème, comment fonder cela. Alors, déjà, on a une indication assez rapide. C'est que si on ne commémore pas la délivrance du matin quand on est rentré dans la nuit, eh bien finalement, on devient des hommes de la nuit qui n'ont plus l'espérance du matin. Vous avez compris la manière dont j'ai expliqué ça? Je vais vous raconter un midrash qui se relie un peu à cela. C'est-à-dire qu'on aurait oublié notre histoire hébraïque si on avait pris au sérieux le fait d'être en exil. En exil, on a vécu comme des Hébreux. Vous avez compris ce que je veux dire? Et c'est ça qui nous a gardés. Il y a Midrash qui raconte qu'il y avait, j'ai oublié comment ça se dit en français, une chauve-souris et un coq enfermés dans une caverne. Alors dans une caverne, il fait nuit. Mais le coq, à minuit, il se mettait à chanter. Alors la chauve-souris, à force d'écouter le coq chanter, a imité le coq et elle s'est mise à chanter. Alors le coq a dit à la chauve-souris, qu'est-ce que tu fais? Il me dit, je fais comme toi. Je dis, mais c'est dangereux pour toi. Parce que moi, je chante la lumière qui nous est enlevée. Mais si toi, tu es un jour dans la lumière, tu vas mourir. La chauve-souris, elle ne supporte pas la lumière. Alors, oui, l'histoire de la chauve-souris, c'est notre problème. Est-ce que ça a un sens pour une chauve-souris de chanter comme un coq à minuit? J'ai compris le midrash. J'ai une fois expliqué ce midrash à un curé. Bon, vous avez compris. Parce qu'il disait, mais on fait comme vous. Et vous avez compris qu'est-ce qu'une chauve-souris? C'est clair. Les goyim, pour se moquer de leur curé, les appellent les corbeaux. Dans le midrash, c'est une chauve-souris. Vous avez compris la difficulté spirituelle, okay? Et c'est difficile de vivre la référence à la lumière dans la nuit. Je veux dire, d'ailleurs, ça se rattache à un din du Kriyat Shema du soir. Vous savez qu'on commence à dire le Kriyat Shema du soir quand il y a trois étoiles. Et la halakha qui étudie cela indique une chose très importante. C'est que ce n'est que si j'ai la preuve que même la nuit il y a de la lumière que je peux dire il y a de la lumière. Alors il faut que j'attende qu'il y ait de la lumière la nuit pour dire, bien que ce soit la nuit, pour dire le Kriyat Shema de la nuit. Vous avez compris ça? Donc, mais ça va dans le même sens. Alors au fond, dans toute cette discussion talmudique qui ne porte pas que sur ce point, les Rameim étaient en train de décider, on continue à commémorer les événements de la délivrance, même si on est retombé dans la galoute. Un point de ces problèmes, c'était de rappeler la sortie d'Égypte la nuit. Parce que le temps du rappel de la sortie d'Égypte, c'est le jour, dans le temps liturgique. Quand je sors de la nuit et je suis dans le jour, alors ça c'est le sens du Kriyat Shema du matin. Mais si je sors du jour pour entrer dans la nuit, est-ce que j'ai le droit de dire Kriyat Shema qui se réfère à celui qui nous a fait sortir de la nuit?
on a la nuit.
Vous avez compris la difficulté?
Top. D'ailleurs, vous savez qu'il y a une autre Mishnah. Quand les Chachamim discutaient leur nuit du Seder, les élèves sont venus leur dire, vous savez que le traitement du matin est arrivé. De quoi il s'agit? Il faut étudier là-bas. Gaz Manchmark, Chachrut. Top. Alors voilà donc, nous avons eu ce qu'on appelle la Recha de la Mishnah, le début de la Mishnah, veut instituer d'autorité Maskirin Yetziat Misraim Balelot. Et à ce propos, nous avons notre texte, c'est la suite dans la Mishnah, Amar Abelazar Ben Azaria, nous sommes convaincus qu'il faut dire le Kachemar la nuit, parler du Kachemar la nuit, Maskirin mentionné. Et on n'est pas arrivé à fonder cela jusqu'à ce que on a accepté l'explication de Benzoma. Qui dit quoi? Le verset dit Kol Yemechayecha. Yemechayecha Yamim, Kol Yemechayecha Lelot. Et pourquoi on ne voulait pas accepter cette explication? Parce que les Chachamim en avaient une autre. Kol Yemechayecha Olamazé, Kol Yemechayecha Leavilimot Mashiach. C'est clair? Bon. Alors, vous allez, tu vas écrire au tableau parce que je vais relire la Mishnah suivée. Amar Rabbi Elazar ben Azaria, suivi sur le texte. Lo zachiti she te'amer yetziat Mitzrayim balelot. Alors marque te'amer. Voilà. Maskirin, c'est la mention de la sortie d'Égypte pour réaliser la mitzvah que me demande ce verset. Et ça, je le fais le matin, Maskirin. Mais qu'est-ce que les Chachamim ont décidé? On va le faire aussi le soir. Mais ça a une autre valeur. Un autre niveau, c'est Te'amer, on en parlera. Bien que la mitzvah du Zecher, c'est le matin qu'on le fera. Vous avez compris la différence du mot? Mais même ceux qui ne comprennent pas, vous sentez que le langage qu'emploie les Chachamim est très précis. Okay? Alors, j'aborde la Gemara maintenant. Et vous n'avez pas le texte sous les yeux, alors faites un effort d'attention et notez ce qu'il faut noter pour l'articulation du raisonnement. Gemara. Tania, on enseigne. Amar lahem benzoma la chachamim. Voilà ce que benzoma objecte au chachamim. Quelle est l'opinion des chachamim? Kol yemechayecha leavilimot hamashiach. J'ai plus besoin de traduire, quel? Ou j'ai besoin de traduire? Dites-moi. Donc, quelle était l'opinion de benzoma? Et kol yemechayecha halelot. C'est-à-dire que benzoma n'admettait pas la lecture des chachamim. Les chachamim disaient, Kolemechayecha, ça veut dire qu'on mentionnera la sortie d'Égypte, Biprinat, c'était amer, au temps messianique. Et donc, Benzoma n'accepte pas ça, comme on va le voir, et dit mon verset est disponible, et je peux l'établir que Kol, c'est les nuits. C'est clair? Top. Amar Benzoma l'achamim, Vechi, Maskirin, Yetiak, Misraim, Nimot, Amashiach. Qu'est-ce que vous racontez qu'on va mentionner la sortie d'Égypte au temps messianique? N'est-ce pas que nous avons un verset qui dit, et c'est un verset dans Jérémie, chapitre 23, voilà le verset. Ine yamim baim, voici des jours viennent, Neum Hashem, dit Dieu, velo yomru od, et on ne dira plus, Hay Hashem, vivant est Dieu, Asher e'el a et bene Israël meret Mitzrayim, qui a fait monter les enfants d'Israël du pays d'Égypte, qui, mais on dira, Hay Hashem, vivant est Dieu, Asher Ela qui a fait monter, Asher Evi qui a fait venir, et Zerar Bet Israël, la postérité de la maison d'Israël, Meret Safona, du pays du Nord, ou Mikola Ratso de tous les pays, Asher Idartim Sham, où je les avais exilés là-bas. Et donc, Benzoma a un argument très fort, il dit, j'ai un verset du prophète, qui dit en clair, au temps où Dieu ramènera la maison d'Israël, du pays du Nord et de tous les pays, on y est, on ne dira plus, vivant est Dieu qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Alors il objecte ce verset au Chachamim, d'une discussion qui se passe il y a longtemps. Okay? Et alors, voilà ce qu'on répond à Chachamim. Non, c'était Akeretiat Mitzrayim Koma. Ça ne veut pas dire qu'on annulera le souvenir à la sortie d'Égypte. Et là, c'était Shirbu Malchuyot Aikar, mais que la commémoration de la délivrance de l'oppression des nations, c'est-à-dire l'exil de la fin des temps, la délivrance de la fin des temps, sera l'essentiel. Vetiat Misraim Tafel Lo. Et le rappel à la sortie d'Égypte sera Tafel, ça veut dire non. c'est pas secondaire. Tafel, ça veut dire second par rapport à. C'est pas secondaire. Secondaire, c'est négatif. Hein? C'est plus les mots exacts en français, c'est nécessaire et contingent. Ekar et Tafel. Donc, ça veut dire que la Haggadah de la fin des temps racontera la sortie du pays du Nord et de tous les pays, aussi de la Gemara, hein? On aura une petite introduction qui rappellera la sortie d'Égypte. De la même manière que dans notre Agada, on a une petite introduction qui rappelle la sortie d'Abraham d'Ur Kasdim, mais que l'essentiel de notre Agada, c'est la sortie d'Égypte. C'est clair? Vous prenez la première, le premier passage de l'Agada, on nous raconte Mitrila, Avde, Avdazara, Avotenu, la sortie d'Abraham d'Ur Kasdim. Et puis c'est juste une petite introduction, mais l'essentiel de la commémoration, c'est la sortie d'Égypte. Alors qu'est-ce que dit la Gemara? À la fin du dernier exil, quand on reviendra du pays du Nord et de tous les pays, eh bien, l'essentiel, le haïkar, sera la délivrance de Shirbud Malchuyot et Tafel, on rappellera Yetziat Mitzrayim. C'est-à-dire qu'on annulera le rappel de la sortie d'Égypte. Est-ce que c'est clair jusque-là? Okay. Bon. Or, à propos de l'identité des trois exils, il y a eu l'exil d'Égypte où tout Israël était exilé dans un pays, tout Israël en Égypte. Ensuite, il y a eu l'exil après le premier temple où tout Israël était dans tous les pays. Et puis, à la fin de l'exil, du troisième exil, celui dont nous vivons la fin, eh bien, Israël revient de partout, mais comment, c'est indiqué dans la Gemara, du pays du Nord et de tous les pays. Je répète le verset de Jérémie, « Meret Safona ou Nicolas Ratzot ». On ne peut pas ne pas se rendre compte que la délivrance contemporaine a commencé par le pays du Nord et tous les autres pays ont suivi. Et le pays du Nord, j'y peux rien, il est au Nord. Okay? Le sionisme a été fondé par les juifs russes, je ne sais pas si vous avez ça. Okay? Et ça reprend avec les juifs russes. Alors je ne sais pas si les russes connaissaient ce verset, mais en tout cas il est écrit. Et c'est clair. Et tout le monde l'a su, puisque l'a su les russes. Alors, en tout cas, on revient au sujet. Vous voyez ce que savaient les talmudistes. Et si c'est clair jusque-là, voilà la réponse des Chachamim. Il dit, quand nous disons « Kol yemechaecha le'aviv imot ha-mashiach », ne crois pas qu'on va oublier la sortie d'Égypte. Mais la mitzvah ne sera pas sur la sortie d'Égypte, mais sur Shirbud Malchuyot. Et là, il y a une dimension du problème qui est très importante. Qu'est-ce que c'est Shirbud Malchuyot? Alors j'en profite pour expliquer un peu cela. Littéralement, ça veut dire l'oppression des nations. C'est exactement ce qu'en termes de culture contemporaine, on appelle l'impérialisme. Ça veut dire que les nations oppriment les nations. Centralement Israël et toutes les nations. Alors, la fin de Shirbud Malchuyot commence avec la délivrance d'Israël. Alors, vous ne pouvez pas ne pas remarquer cette corrélation. C'est au moment où commence la fin des empires de la civilisation présente que l'indépendance nationale d'Israël, 2000 ans après, apparaît. C'est-à-dire, la Géoula présente est corollaire de la fin de Shirbud Malchuyot. Et puis, c'est bien à ça. Okay. C'est clair. Nous avons dans la Gemara une définition très claire du temps que nous vivons, depuis 1917. C'est en 1917 que se déclenche la fin de Shirbud Malchuyot, c'est en 1917 qu'il y a la déclaration Balfour. Et que l'Empire britannique commence à se disloquer, et après lui tous les autres empires, le dernier qui est en train d'éclater c'est l'Empire soviétique. C'est un processus qui n'est pas fini, mais qui est embrayé. Est-ce que c'est clair ce que je veux dire? Alors on ne peut pas ne pas remarquer cette relation qui est massive. 2000 ans de galoute, ça commence à finir quand? Quand commence à finir Shirbud Malchuyot? C'est indiqué dans la Gemara en clair. Okay. Alors ça veut dire qu'ici il y a l'indication que la Gemara de la fin des temps, disons la Gemara de Yemot HaMashiach, le gros du récit, ça se... La Gemara, La Haggadah de... Je pensais que Mara, il y a aussi la Halakha. La Haggadah de Yemot HaMashiach, le gros du récit aura pour événement la délivrance de la Shoah, c'est clair. Et puis, il y aura une préface rappelant la sortie d'Égypte, laquelle a une préface rappelant la sortie d'Abraham d'Okaz. Bon, on n'en est pas là, mais vous voyez ce qu'annonce la Gemara. Alors, jusque-là, c'est suffisamment clair. Donc. Et alors, bon, je continue. La Gemara va donner un exemple de cela. En citant le verset où Jacob change de nom et prend le nom d'Israël. Il dit, « Kayosebo, Ataomer, exemple analogue, tu dis ce verset, « Loïc Areshimcha od Yaakov, ton nom ne sera plus nommé Jacob, qui im Israël yeshemecha, mais Israël sera ton nom. » Et dit la Gemara, « Lo sheyakel Yaakov imekomo, ça ne veut pas dire qu'on annulera le nom de Jacob, et là Israël aikar, mais le nom d'Israël deviendra l'essentiel, mais Yaakov tafello, et Jacob sera second par rapport à Israël. » Et vous comprenez toutes les implications de ce que nous vivons aujourd'hui. Nous étions Jacob dans l'exil, et ça c'est clair dans tous les versets, quand Israël est en exil, il s'appelle Jacob. Quand Jacob revient de l'exil, il s'appelle Israël. C'est clair dans tous les récits de l'histoire de Jacob. Si vous voulez des références, je vous les donnerai, mais vous étudierez ça d'autre part. « Véchenou Omer » Et alors, là, la Gemara va déployer cet enseignement, mais quel est le principe de cet enseignement ? Tant que le gros plan de l'histoire est sur un événement, c'est lui le centre de l'histoire. Mais dès qu'on passe à une étape suivante, alors l'événement précédent qui était le gros plan de l'histoire devient préface, et c'est l'événement suivant qui occupe la scène de l'histoire. C'est clair ? Tant que Jacob est Jacob, c'est Jacob qui est Jacob. Mais dès qu'il s'appelle Israël, il est toujours Jacob. Mais Jacob, c'est récessif, et Israël, c'est dominant. Est-ce que c'est clair ? Et nous vivons un temps exceptionnel où Jacob devient Israël, les Juifs deviennent les Israéliens, et on ne s'en rend pas compte. Est-ce que c'est clair ? Vous voyez pourquoi ? Le danger pour Israël, c'est les Juifs. Vous avez compris ce que je veux dire, hein ? Et qu'ils veulent rester Juifs et pas devenir Israéliens. C'est clair ce que je dis là ? Top. Vous avez compris la place de Bnei Brak dans la Haggadah de Pessah. On s'est demandé, qu'est-ce que ces élèves qui vont dire à leur maître, vous savez, Kriyat du matin est arrivé. Allez, j'ai entendu une fois une réponse très jolie. Il y a Bnei Brak, tout peut se passer. Même ça, t'inquiète. Ils sont en Brak. En tout cas, pour revenir au sujet, il y avait une pièce de théâtre loufoque en France, ça s'appelait Les Branquignoles. Vous n'avez jamais vu. Maintenant, on a les Branquignoles. En tout cas, on revient au sujet. C'est joli. C'est pas dans le texte, mais c'est joli. Ça veut dire que le... à partir du moment où la tête est la tête, le talon reste le talon. Mais c'est pas le talon qui est la tête. C'est ça que tu voulais dire. D'accord, j'ai compris. C'est ce que dit le verset, et c'est un verset qui dit Israël. Donc, l'idée est claire, vous voyez quelle est la dialectique de la Gemara ici. Il y a une première étape, elle est l'essentielle. Mais dès que l'étape suivante apparaît, c'est elle l'essentielle, mais ça ne veut pas dire qu'on va annuler la première. Je veux dire ça d'une autre manière, c'est une expression que j'emploierai souvent dans les cours, c'est-à-dire les Juifs étaient d'origine hébraïque. Le danger pour les Juifs, c'est d'oublier leur origine hébraïque. Ça s'appelle l'assimilation. Eh bien, les Israéliens sont d'origine juive. Et le danger pour les Israéliens, c'est d'oublier qu'ils sont d'origine juive. Ça s'appelle les chilonim. Vous avez compris ce que je veux dire ? Donc, mais d'origine juive. C'est clair ? Bon. Alors, vous voulez qu'on continue un peu dans la Gemara ? Donc, Bechenu Omer. Alors là, maintenant, la Gemara va élargir cet enseignement en citant les prophètes. Il y a un verset de Isaïe qui dit ceci. Altiskeru Rishonot. Ne vous souvenez pas des premières choses, Rishonot. Mais Kadmoniot, Altidvonenu. Et des choses antérieures, n'y réfléchissez pas. Vous voyez quelle est la formulation du verset. Altiskeru Rishonot. si vous êtes après les Rishonot, ne vous occupez pas à être dans la mémoire des Rishonot et que ça. Parce qu'il y a eu autre chose après dont il faut se souvenir. Et il y avait même les choses antérieures aux premières choses. Et n'y réfléchissez pas. Isaïe donne ici une consigne, soyez de votre temps. Et il y a un penseur juif, mais je ne peux pas vous citer, ça m'échappe. Je ne sais pas si c'est Elie Wiesel, non, ce n'est pas Elie Wiesel, peut-être Elie Wiesel le cite. Mais en tout cas, c'est ce qu'il dit qui est important. C'est-à-dire, les juifs ont le passé devant eux, et non pas derrière eux. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis là. Okay. C'est-à-dire, c'est notre passé qui est notre avenir. Alors, si on reste dans le passé, on n'a plus d'avenir. C'est bien ça. Donc, alors la Gemara explique. Altis kero rishonot, zeshebot malchuyot. Il arrivera un temps où on dira, ne vous rappelez plus de l'événement de la délivrance de zeshebot malchuyot, au temps messianique. Hein? La Gemara nous envoie loin. C'est-à-dire, il arrivera un temps où même la Hagadah de la fin des temps, ça deviendra une préhistoire. Mais kadmoniot, altidbonenou, et les choses antérieures n'y réfléchissaient pas, c'est avant Shebun Marot, c'est-à-dire la sortie d'Égypte. C'est-à-dire, le temps va marcher. Et pendant tous les 2000 ans de Galut, on attendait la fin de Shebun Marot. Une fois qu'on l'aura traversé, ça viendra du passé. Et on sera dans un temps à venir où on aura d'autres exigences qui dépasseront cela. C'est clair ? Vous voyez ce que c'est que la Gemara, hein ? C'est pas des petites histoires. Il y a alors à plus forte raison la sortie d'Égypte qui va être reculée dans une préhistoire antérieure. On se rappellera de la même manière que lorsqu'on parle d'Abraham, on sait que tout ça a commencé grâce à Adam. Mais Adam, on a fait des images pieuses avec ça, okay, de l'imagerie, des mythes. Alors que c'était grâce à lui, Adam, que l'humanité existe. Oui, on a renvoyé Adam Richon. On en parle comme un mythe, et avec une ingratitude dont vous n'avez aucune idée. On lui a mis sur le dos tous les péchés du monde. D'accord ? Alors, moi je suis toujours étonné avec quelle facilité des gens pieux mettent tous les péchés du monde sur le dos d'Adam Richon, au lieu de le remercier d'avoir eu le courage d'être notre ancêtre. C'est la première créature qui a eu le courage d'être homme. Alors, qu'est-ce qu'on fait de lui, le bouc émissaire? Vous avez compris ce que je veux dire? Voilà à quel point les hommes sont ingrats. Okay. Alors, on continue. Et la suite du verset d'Isaïe est encore plus forte. Ineni osé chadasha, voici que je fais une chose nouvelle, donc après Shebun Malchuyot, atatitzmar, et déjà maintenant elle est en germe. Tanir Rabbi Yosef, Rabbi Yosef enseigne, de quoi s'agit-il dans ces choses nouvelles? Zo milchemet Gog et Magog. C'est la guerre de Gog et Magog. Bon. Alors, la guerre de Gog et Magog, c'est un sujet pour lui-même. Je vais en parler très peu. C'est un sujet pour lui-même. Alors, voyez ce qui se dessine comme rythme de l'histoire. La sortie d'Égypte. Et qui est le commencement de l'espérance de la Géoula, de la fin des temps d'exil. Shebun Malchuyot. Et après Shebun Malchuyot, une fois que ça sera passé, nous aurons à avoir une espérance de traverser la guerre de Gog et Magog. Et ça veut dire que ça ne serait pas là après. Il y a degré en degré. Donc, alors la guerre de Gog et Magog, il y a une légende là-dessus. Si vous voulez comprendre la guerre de quoi il s'agit dans la guerre de Gog et Magog, il faut étudier trois chapitres du prophète Ézéchiel qui en parlent. Mais ceci dit, on a l'habitude de parler de la guerre de Gog et Magog comme s'il y avait deux entités qui sont la guerre, une Gog et l'autre Magog. D'accord ? C'est comme ça qu'on en parle. En réalité, il ne s'agit pas de tout ça. Magog, c'est le peuple, et Gog, c'est son roi. Et c'est une guerre que Gog, roi de Magog, fait contre Israël. Et les Hachamim ont expliqué qu'il y a une allusion à une coalition des 70 nations contre Israël. Parce que la gamatria de Gog et Magog, ça fait 70.